1, 2, 1, 2. Et deux mesures piano, comme écho. Encore une fois.
La musique n'a pas ce problème. C'est plus libre, comme le philosophe danois, qu'est-ce que c'est?
Kierkegaard.
Kierkegaard a déjà dit, la musique c'est le plus libre des arts. Ça veut dire que l'anarchie peut y entrer plus facilement.
Et vous êtes sur France Culture et vous passez par Continent Musique, ce soir émission libre ou anarchique. Hein. Nous verrons ce soir avec vous Guillaume Kosmicki, musicologue, enseignant, conférencier. Vous publiez le troisième et peut-être dernier, en tout cas pour l'instant, tome consacré aux musiques savantes de John Zorn à la fin du monde et après. On verra. 1990-2015, une entreprise qui vous a auparavant mené de Debussy à la chute du mur de Berlin, de Ligeti à la fin de la guerre froide, et forcément aussi, il a été question de John Cage, hein, qu'on entendait à l'instant ici au micro de René Farabet. Quelle musique, pour quelle époque, hein, votre geste, Guillaume Kosmicki, c'est à la fois celui d'un historien qui ne cache pas qu'il est aussi musicien, c'est aussi celui d'un critique. D'ailleurs, l'expression de musique savante, on aura l'occasion d'en parler, que vous la choisissez avec précaution, pour ne pas dire expérimental, peut-être.
Peut-être un peu.
Pour ne pas dire avant-garde.
Oui, en fait, c'est le terme le moins pire que j'ai pu trouver, hein, le terme de musique savante. Donc, effectivement, hein, on pourra peut-être en parler, mais voilà. c'est un terme très problématique.
Voilà. Comme contemporain, par exemple, puisque forcément les musiques
encore plus problématiques. Voilà. Ouais, encore plus.
Expression, en tout cas, qui n'exclut pas, selon vous, de parler aussi bien de John Cage que de Sgt. Pepper, des Beatles, de John Coltrane ou même de Björk. On écoutera en deuxième partie d'émission une compositrice qui est mentionnée d'ailleurs dans ses ouvrages. C'est Eliane Radig, qui nous a reçus chez elle à Paris, auteure d'une œuvre aussi radicale que singulière, où la question du son et de notre attention à ce qui s'y passe est centrale. Mais on va commencer par la première œuvre que vous analysez dans ce dernier tome, Guillaume Kosmicki, Naked Cities. Extrait de Batman, c'est l'ouverture de l'album Naked Cities de John Zorn, paru en 1990. C'est la première des 43 œuvres, parce que c'est comme ça que le livre est construit, Guillaume Miclou. Hein, vous choisissez à chaque fois un disque un peu emblématique d'un moment de l'histoire de la musique. En quoi est-ce que ce disque exprime le zeitgeist, l'esprit du temps de cette fin de siècle, comme vous l'écrivez?
Oui, absolument. En fait, on est en 90, on est dans une époque vraiment pleine de questionnements, puisque le bloc de l'Est est en train de s'effondrer totalement, c'est la fin, hein, finalement, et puis ce qui a guidé le monde pendant une quarantaine d'années, hein, ces certitudes, ces idéologies, avec d'un côté le système occidental, le capitalisme face au système communiste, et puis les non-alignés faisait comprendre finalement tous les conflits du monde, tous les rapports dans le monde. Tout ça s'arrête et on se retrouve dans une époque finalement sans utopie, hein, quasiment sans transcendance, dont on sait pas où elle va aller. À ce moment-là, il y a plein de questions et c'est un album, comme on vient de l'entendre là, très clairement sur les quelques secondes de ce morceau, c'est un, un album de zapping musical, un album de collage incroyablement virtuose. C'est un groupe de virtuoses. Hein. Naked City, c'est non seulement le nom de l'album, mais c'est le nom du groupe de John Zorn sur ce projet-là, avec des musiciens qui sont vraiment émérites, hein, avec Fred Frith, avec Bill Aswell, enfin vraiment des très grands musiciens,
Bill Aswell, très grands musiciens
qui sont capables de passer d'une ambiance à une autre comme ça, de manière extrêmement cassée. On a un peu de country, un peu de hard rock, des cris de Yamatsuka Ai, qui est un chanteur d'indus, de rock indus japonais que John Zorn adore. Et on a cette ambiance zapping. Aussi, c'est aussi le reflet de l'époque MTV, CNN, Info en continu, télé à outrance. Hein. On est vraiment en 90 dans ce moment-là, ce moment clé. On n'est pas encore dans l'internet, mais l'écran est déjà partout. Et il y a ça dans cette musique très clairement inscrit. Et ça correspond parfaitement à ce temps-là, à ce moment-là.
Alors on le comprend quand vous parlez de John Zorn, mais on va le comprendre si on se plonge dans cet ouvrage, Guillaume Kosmicki. Votre credo de musicologue, c'est vraiment inscrire la musique dans une histoire. Hein. On comprend que les créateurs, d'ailleurs c'est ça qui est toujours passionnant, c'est que on ne sait pas s'ils ressentent ou s'ils pressentent les flux de l'histoire. Vous titrez « Descendre, désillusion, désespoir ». Ça, c'est le titre de la première partie de cet ouvrage, qui est une sorte de grande introduction. Et là, je vais en donner un peu la teneur, parce que vous dites « Descendre », parce que vous commencez à parler de la fin de l'histoire, annoncée par Francis Fukuyama, et puis plus largement par la fin de toute certitude, hein, comme dit Baudrillard, de plus en plus d'informations et de moins en moins de sens. C'est l'avènement, vous le disiez, d'un capitalisme mondialisé qui sera favorisé par l'apparition d'Internet. Vous évoquez la pulvérisation de la politique culturelle en France dans les années 2000, ceci au profit du mécénat privé, le développement des murs de séparation entre les hommes, les grands conflits entre les événements comme le 11 septembre, l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh, enfin les questions climatiques, bref, le geste est très ample. Descendre, des illusions, des espoirs. Est-ce que c'est l'ordre, je dis des espoirs, il y a deux mots. Hein.
Oui, bien sûr.
Est-ce que c'est l'ordre dans lequel vous regardez l'histoire de ces 25 dernières années en musique?
Bah c'est un titre qui a tous les sens en fait, hein, parce que descendre, c'est descendre en deux mots, mais c'est aussi descendre des illusions. On en descend, on en sort, mais des illusions qui renaissent aussi de tout ça. Alors c'est pas un titre, on va dire univoque, c'est pas un titre qui donne une seule direction. C'est un titre qui ouvre plein de pistes qui sont effectivement en pleine ébullition. Hein. Les 25 dernières années, c'est quand même suite à ce grand doute, ce grand moment d'incompréhension totale du monde. Bah il faut tout reconstruire derrière en même temps. Et il faut finalement se rendre compte assez vite qu'il y a une nouvelle lutte, hein, ce capitalisme mondialisé, cet ultralibéralisme, hein, extrêmement prégnant, de nouvelles luttes vont en émerger et très probablement aussi de nouveaux langages musicaux qui vont accompagner ces luttes, hein, les pressentir et puis les suivre, les appuyer.
Thank you.
in Si ou en Do de Terry Riley, ici interprété par Africa Express, une œuvre séminale, dites-vous, créée à San Francisco en novembre 1964, considérée comme la pierre fondatrice de la musique minimaliste. Et la version qu'on entend, c'est une version malienne, toute récente, qui est parue il y a peu de temps, avec Balafonde, Goni, Flûte Peul, Cora. C'était le projet Africa Express, où on retrouve des musiciens maliens sous la houlette de musiciens anglais comme Brian Eno et Damon Albarn. Est-ce qu'il s'agit là de world music savante ? J'y pense parce que Guillaume Kosmiki, c'est une expression qu'on trouve. Vous reprenez ce mot à l'ethnomusicologue apollinaire Anakesa Kululuka. Le minimalisme apparaît aussi finalement dans une réflexion sur la décolonisation.
C'est vrai que ça peut être rattaché effectivement à cette notion-là, qui n'est pas mienne, effectivement, comme vous venez de le rappeler. Mais il y a des exemples peut-être plus parlant de cette notion de world music savante, des traditions d'écriture occidentale qui sont vraiment appliquées à des musiques traditionnelles par des musiciens du monde entier. Là, on est dans l'exemple d'un occidental, donc un Américain, Terry Riley, qui va utiliser des éléments qu'il emprunte à des musiques extra-occidentales. Et il adapte cet exotisme, mais pas vraiment comme un exotisme, pas vraiment comme une couleur extérieure, comme ça. Vraiment, il essaye de donner, et il réussit d'ailleurs parfaitement à le faire, une nouvelle temporalité très très éloignée de notre temporalité occidentale. Nous, les Occidentaux, on a besoin souvent de musique avec un début, un milieu, une fin, quelque chose de très commensuré et de très cartésien. Et là, on est au début des années 60, dans un moment clé où effectivement le mouvement de décolonisation est en pleine action, et on commence à avoir un regard très différent sur l'autre, sur l'altérité. C'est exactement ce que fait Terry Riley. Il repose, comme on vient de l'entendre dans cette version, alors que je connaissais pas bien, mais qui est aussi tout à fait parlante. Il y a des dizaines de versions cette œuvre-là, puisque
c'est extrêmement populaire, une série de Terry Riley. Je pense que c'est joué à peu près toutes les semaines partout dans le monde.
Absolument, absolument. Et la partition en elle-même ne signale pas l'effectif. Donc, les instruments, c'est ce qu'on veut. Et en fait, la partition, elle est très simple parce qu'elle tient sur une seule page. Il y a une cinquantaine de petites séquences. Certaines sont très très courtes avec une seule note. D'autres sont un petit peu plus développés. On a une pulsation répétitive qui va se maintenir d'un bout à l'autre de la pièce. Sur cette pulsation, les instrumentistes sont invités à jouer chacune des séquences et surtout à les jouer de manière décalée, parce que ça va donner justement un tas d'effets qui vont déclencher vraiment quelque chose d'hypnotique, d'extatique pour l'auditeur. Et c'est évidemment quelque chose qui, en Occident, n'était pas vraiment à ce moment-là largement développé. Et c'est très nouveau qu'on entre dans ce cadre-là.
Alors, Guillaume Kosmiki, qui, dans ce livre qui couvre la période 1990-2015, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout la moins riche des périodes de création, parce qu'on assiste à plusieurs changements d'air, avec notamment la disparition en 92 et 95 de figures comme Olivier Messiaen, John Cage, Pierre Schaeffer. Ajoutons Pierre Henry, qui est disparu en 2017.
Et Pierre Boulez.
Et Pierre Boulez, évidemment, disparu tous les deux en 2017. Parmi Gianni, on l'entendra tout à l'heure, mais Pierre-Henri, je vous proposais qu'on entende sa voix tout de suite. C'était en 1990 dans Multipiste sur France Culture.
Plus qu'un musicien, je suis un écrivain et je cherche à écrire à ma façon. Donc c'est une façon libre, une façon poétique, une façon picturale. Et je veux pas dire un peintre du son parce que je trouve ça un peu bête et un peu vague. Et un peu court. La peinture, c'est un peu une brièveté que moi j'aime associer, juxtaposer, donc mot après mot, son après son, et pour revenir à ce terme d'écrivain, comme il me fallait d'autres compositeurs pour me faire découvrir la musique, maintenant il me faut des écrivains pour me faire découvrir mes œuvres futures.
Eh bien, vous avez choisi, Guillaume Kosmiki, un disque vinyle. Vous avez demandé de choisir quelque chose dans la discothèque de Radio France. Et regardez ce que j'ai dans les mains.
Il est magnifique.
Voilà. Un coffret Prospective 21e siècle.
Absolument, c'est Philips, ça. Ça, c'est des très belles pochettes.
Ouais. Très beau disque de couleur argentée avec des formes géométriques, des motifs répétitifs. Et vous avez choisi l'Apocalypse de Jean. de Pierre-Henri. Alors c'est curieux parce que c'est un disque qui revient assez souvent quand on invite, quand j'invite des musiciens à venir ou des compositrices à venir chercher quelque chose dans la discothèque de Radio France. L'Apocalypse de Jean, c'est une sorte de pierre fondatrice.
Quelle place elle tient ? Ah ouais, pour cause. Hein. C'est pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Hein. Dans laquelle on a, on va entendre un extrait, mais on a cette voix de l'acteur Jean Negroni qui fait partie intégrante des sons choisis par Pierre-Henri. C'est une matière sonore qui invite l'acteur à travailler, mais qui travaille lui-même. Hein. La voix, on l'entend passer à tous les filtres, on l'entend crier, grogner, souffler, respirer. Il y a une exploration du son qui est considérable. Les premières œuvres, les premiers essais de Pierre Schaeffer, c'est 1948. Là, on est en 68. Et 20 ans après, là, on a vraiment une œuvre qui va dans les détails de ce qu'on peut faire avec l'enregistrement. On assiste à une révolution, hein, véritablement, dans l'histoire de la musique.
C'est la bande comme matériau.
Et absolument. Et une révolution comme on n'en a pas connue beaucoup dans notre histoire de la musique. Hein. C'est la troisième. La première, c'était l'écriture au 9e siècle. La deuxième, c'était l'édition au début du 16e siècle. Et celle-là, l'enregistrement, on est en plein dedans. Et chacune de ces trois révolutions, finalement, il a fallu un siècle, deux siècles et demi avant d'en voir les effets, finalement, sur la musique. Et on est en plein dans le moment du basculement avec cette œuvre-là. Vraiment, je trouve qu'elle est tout à fait capitale.
Eh bien, on l'écoute, on va sortir le disque. C'est la face 2. Vous avez choisi La Bête de la Terre. C'est
ah oui.
Séquence 14.
On écoutait ça allongé dans une chambre dans le noir avec des amis étudiants et on se faisait très très peur.
Qu'il compte
de la bête.
Le nombre de la bête. Car c'est un nombre
d'hommes.
Et ce nombre est 666.
666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 666 extrait de ce très beau disque, en tout cas pour le vinyle, édité dans la collection Perspective du XXIe siècle. Prospective du XXIe siècle, édité chez Philips, sous-titré Studio Absom. Absom parce que c'était application de procédés sonores en musique électronique.
C'est le premier studio privé français monté par Pierre Henry, absolument.
Dans votre livre, Guillaume Kosmicki, Musique savante, ça balaye un spectre très large, mais qui va vraiment d'Emmanuel Nunes et de Georges Apergis, c'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre du théâtre musical, mais aussi aux frontières entre la pop et l'expérimentation sonore. Vous avez mentionné Björk et Richard D. James, Aphex Twin. Un extrait de Vordhospn, très difficile à prononcer. Ça veut dire le bateau bruyant en cornique moderne par Aphex Twin. C'est un extrait de l'album Drux qui était paru en 2001. Richard D. James, il est né en Irlande, d'où le cornique. Il a grandi en Grande-Bretagne, dans une petite ville de Cornouailles. Et comme plusieurs figures de la musique électronique, il cultive une part de mystère. Il a pu multiplier les pseudonymes ou les masques, même si c'est son visage. Il y a ce masque grimaçant, mais un peu effrayant, celui de Richard D. James.
C'est un personnage qui, comme a pu le faire Bowie à une autre échelle, je dirais, mais qui aussi joue avec sa propre vie, sa propre image aussi, pour réaliser son œuvre d'art. C'est vrai que on sait très peu de sa vie, on essaye d'en avoir des bribes de ci, de là. Donc effectivement, il joue avec cette image. Il l'a fait avec Chris Cunningham, qui a fait des clips incroyables aussi autour de ces morceaux.
On recommande Window Licker, qui Absolument. Est vraiment un clip assez extraordinaire. Un inédit et inattendu proposé par le label Transversal qui sortira le 9 octobre prochain. Cette bande originale du film Rock, une musique composée en 1982 par Bernard Parmigiani. Alors Bernard Parmigiani, 1927, disparu en 2013, c'est une figure très importante de la musique électroacoustique. Membre historique du GRM, passé par le club d'essai de la radio. Et puis, vous le rappelez, Guillaume Kosmicki, dans votre livre, c'est dans le tome 2 des Musiques Savantes, il est aussi connu du grand public, puisqu'il l'a entendu pendant longtemps sans savoir que c'était lui. À la fois l'indicatif de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, des génériques pour France Culture, pour France Inter, celui de Stade 2. Vous étiez surpris parce
Tout à fait.
C'est vrai que ça ressemble pas au reste de sa production.
Là, pour le coup, j'ai entendu des TR-808, j'ai entendu des boîtes à rythme de l'époque, des débuts des années 80, puisque vous me dites que c'est de 82. Et je voyais pas du tout Parmigiani s'intéresser à ce type de sonorité, qu'il a peut-être obtenu complètement différemment. Mais moi, j'ai l'impression d'entendre, parce que je me suis intéressé beaucoup par ailleurs aussi, les prémices de la techno, quoi, quelque chose comme ça.
Bien sûr, on entend aussi le synthé AKS, il utilise beaucoup de farfisa. On pense un petit peu à des choses comme ce que pouvait faire François de Roubaix.
Plein de choses.
Alors l'œuvre de Bernard Parmigiani qui est peut-être la plus importante, en tout cas c'est celle que vous avez choisie, Guillaume Kosmicki, que vous avez choisie comme illustration, c'est Denatura Sonorum, créé en 1975. Quelle est l'ambition ? Est-ce que c'est de révéler, comme le livre de Lucrèce, Denatura Rerum, auquel le titre fait référence ?
La nature du monde. C'est vrai que là encore, on a un jalon extrêmement important. Comme je l'évoquais pour Pierre-Henri, on est dans l'entrée vraiment de ces musiques électroacoustiques dans l'histoire. On est dans un moment où on fabrique du son non plus avec un stylo sur une partition, non plus par la transmission orale, mais par la bande magnétique ou par le support quel qu'il soit, ce qui est complètement nouveau, c'est un nouveau paradigme, c'est un nouveau monde. Et en lançant ce grand titre, Denatura Sonorum, il propose pratiquement une sorte de grammaire sonore. Alors il s'inspire beaucoup de la grammaire du maître à tous ces musiciens, qui est Pierre Schaeffer, qui avait écrit un solfège de l'objet sonore, des traités des objets sonores. Il s'inspire de tout ça et il montre finalement toutes ces qualités de son, l'impulsion, la trame, la granulation, etc., et il fait vivre des sons, on entend des gestes, on voit des gestes. Et c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, pour Parmigiani, l'œil entend, l'oreille voit. Il parle beaucoup de ces croisements entre les sens. Et il y a vraiment une énergie. Alors, dans Denatura Sonorum, il y a des morceaux comme Impulsion, Incidence, Résonance. Et on a des sons qui sont des sons qui ne sont pas du tout issus du même geste, du même objet, mais qui sont associés ensemble. Et on a l'impression que l'un entraîne l'autre. On a l'impression vraiment d'un rapport d'énergie, de matière sonore organique.
France Culture.
Continent Musique.
Mathieu Conquet.
Nous quittons la musique de Bernard Parmigiani pour nous plonger maintenant dans l'œuvre d'Éliane Radigue. La compositrice nous a reçus chez elle dans son appartement à Paris, plein de lumière et d'œuvres d'art de son ancien mari Armand. Depuis les nouveaux réalistes jusqu'à Xavier Veillant qui invite sa musique dans le pavillon français à la Biennale de Venise, beaucoup d'artistes auront croisé Éliane Radigue depuis ses débuts dans les années 60, auteur d'une musique radicale à nul autre pareil qui n'est chaque fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, comme le disait Verlaine, une démarche inclassable qu'on a parfois à tort tendance à classer du côté des minimalistes ou encore de la musique de drone. Or, c'est encore à une autre expérience que nous invite Éliane Radigue, celle de l'écoute profonde et d'une musique ambivalente. Éliane Radigue, merci de nous recevoir chez vous. J'étais curieux de venir chez vous pour savoir ce qu'on y entendait. Parce que je crois savoir que, dans votre jeunesse, le son des avions, que vous écoutiez de loin, et puis ensuite quand vous empruntiez l'avion, a eu une certaine importance. Alors je me demandais si le son qu'on peut entendre chez vous a son importance aussi.
Vous savez, maintenant, le son qui a son importance ici chez moi, c'était par exemple la semaine dernière, un septuor de 7 merveilleux instruments, et on a passé une semaine extraordinaire. Alors donc, et dans ces cas-là, on oublie totalement le bruit de la rue. Maintenant, je suis beaucoup plus investie dans la musique. À l'époque des avions, j'étais un peu coincée dans le système d'écriture de décaphonique sérielle, qui était amusant comme un jeu, mais qui ne me satisfaisait pas. Je vous dis, je reste très très liée à la musique classique. D'autre part, j'avais cette audition plus attentive et intéressante des avions, et ça, ce qui a évidemment coïncidé, Thomas m'a totalement fait adhérer, là, le jour où j'ai entendu une émission de Pierre Schaeffer. Et je dis, mais voilà, l'étude aux chemins de fer, bien sûr, les chemins de fer aussi, c'est de la musique. Pourquoi pas les avions, pourquoi pas. Enfin, toute l'histoire de la musique concrète. Et c'est comme ça qu'a commencé ma véritable aventure musicale. La rencontre avec Pierre Schaeffer d'abord. Et c'était pas vraiment d'assistance, c'était plutôt de stage, puisque j'habitais Nice à l'époque et que j'avais déjà 3 enfants. L'époque avant que Pierre Schaeffer, qui était à ce moment-là directeur de la Sora Forme, n'avait pas institué des cours. Et c'était donc très familial. On se retrouvait, il y avait le technicien, le couple, le Poulain de Madeleine qui était au secrétariat, et Pierre-Henri, bien entendu. Et donc, c'était très simple. Alors, moi, découper de la bande à n'en plus finir, c'était formidable parce que ça permettait de faire différents repérages, de voir ce qu'il y avait d'extraordinaire quand on coupait l'attaque du son d'une cloche, d'entendre tout ce déploiement comme il est en montagne, et donc avec par contre une oreille qui n'avait pas été d'abord percutée par une attaque et qui découvrait tout simplement ce long murmure sonore extrêmement riche, et c'était formidable.
Et Pierre-Henri, vous le retrouverez plus tard.
Plus tard, voilà. Plus tard, quand je reviendrai m'installer à Paris, au moment de ma séparation. Pierre Schaeffer m'avait donné une très gentille lettre pour la radio niçoise, en demandant s'il pouvait me donner quelques heures par semaine pour pouvoir travailler. Il se trouve, vous parliez de cette photo, que le directeur a semblé beaucoup plus apprécier mon anatomie que mes éventuels talents. Et comme j'avais tout à fait l'art, sans l'air de ne jamais rien comprendre à ce genre d'histoire, il a simplement renvoyé à Pierre Schaeffer une lettre en disant qu'il n'avait pas le temps. Vous imaginez, la radio niçoise, en 1957-58, n'avait pas le temps de donner 2 heures par semaine. Ceci étant, c'est très bien, parce que j'aurais probablement fait ce qu'on appelait des illustrations sonores. Enfin, ce terme terrible, parce que qu'est-ce que c'est qu'une illustration sonore ? La musique, c'est justement un dépassement, mais enfin, je n'y serais peut-être pas resté quand même. J'avais trop mauvais caractère pour ça. Voilà, vous connaissez tout maintenant de ces débuts.
La photo à laquelle vous faites référence, Éliane Radigue, on en a parlé juste avant que l'entretien commence, c'est une photo de vous, vous tenez un coquillage contre votre oreille. On peut trouver aussi d'autres images de vous en train de travailler avec des synthétiseurs sans clavier.
Ça, c'était Pourquoi mon synthétiseur. Ça, c'est plus tard, puisque c'est en 1971 que je suis revenu des États-Unis avec ce ARP 2500, après une période d'une année scolaire en résidence à New York University, où là, j'avais travaillé avec un bouclat qui avait été installé dans les studios. Et j'avais fait le tour, qui à l'époque était très vite fait, des appareils. Il y avait les Moog, il y avait les bouclats, il y avait Electrocomp. Il y avait aussi le petit Putney IMS en Angleterre qui était sympathique. Et le Harp, ça a été le coup de cœur. Immédiatement, c'était moi. Voilà. Et par contre, ce que j'avais développé avec le travail, avec les potentiomètres et la manière de faire évoluer très légèrement le son. Et ce langage m'intéressait et excluait le clavier, parce que si j'avais pris le clavier, c'était pas facile. Fallait d'abord, la rencontre était très belle, mais ensuite il fallait qu'on apprenne à se connaître, hein, et à se reconnaître.
Éliane Radigue, je reviens sur une œuvre un peu plus récente, qui date de 2005, mais vous avez parlé tout à l'heure de la résonance du son d'une cloche. Ça m'a fait penser à cette œuvre, au titre de cette œuvre, L'île ressonnante ou résonante, qui en a marqué plus d'un. Daniel Coe, qui a longtemps travaillé pour faire connaître à France Culture toutes sortes de musiques, écrivait que votre musique était susceptible de plonger l'auditeur dans un état second, une sorte de rêve éveillé. Je me demandais si votre musique avait sur vous un effet comparable, et si d'ailleurs c'était le but de nous plonger dans un autre état.
Oh, ça, c'est une question qui ne m'appartient pas. Cette question, vous pouvez la poser à l'auditeur. Parce que la musique que j'ai faite, je n'avais aucun but précis. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours été casé dans différentes catégories que j'ai toujours laissé faire. J'ai jamais cherché à m'en défendre, que ce soit, il n'y a aucune importance.
Oui, on vous a
pour
rapproché
moi,
des minimalistes.
Pour moi, j'avais une certaine musique. Il y avait une certaine musique que j'avais envie de faire. Par exemple, dans la musique classique, j'étais toujours fascinée par les éléments de modulation, les quelques mesures, quelquefois deux ou trois, mais chez Mozart, par exemple, ça pouvait être une page entière ou dans laquelle on sort d'une tonalité ou d'un mode pour aller dans un autre, et avec bon simplement un incident, bon, enfin une altération, il y a un moment d'incertitude où il y a plusieurs champs possibles d'investigation. Il y a une ambivalence, une ambiguïté, et ça c'est quelque chose qui me fascinait. Et ce qui me passionne maintenant dans le travail que je fais avec les musiciens, et c'est peut-être donner une réponse, vous en ferez ce que vous voudrez, hein, et les auditeurs encore plus, mais c'est justement de travailler sur tout ce qu'on peut appeler ces impondérables du son. Parce qu'un son est quelque chose de très vivant, de très complexe. J'ai toujours été fascinée plus par la vibration. Bon, il faut une fondamentale, hein, bien sûr. Mais ce qui est important, c'est toute cette couleur qui se différencie à travers les différents instruments. Et c'est cela, c'est justement d'exaucer, non pas, avec ça s'écrirait, je ne sais pas si ça existe, ça s'écrirait X-H-A-U-2-S-E-R, de mettre en valeur toute cette zone très riche de l'univers sonore. Et je ne sais pas si vous connaissez sans doute maintenant des expériences qui sont faites pour les sourds, où en mettant par exemple l'ami d'une de mes petites filles m'a fait un jour une démonstration ici très intéressante.
Il s'agit de Samuel Aden. Je l'ai rencontré, il nous en a parlé.
Oui, bon. Et donc c'était étonnant. Bon, la résonance, en bouchant mes oreilles et en écoutant ce qui se passait dans le corps, et donc uniquement le crâne devient la cavité de résonance, il y avait mais une richesse incroyable. Il m'avait mis le son de violoncelle de Charles Curtis, de la première pièce que nous avons fait ensemble, le Naljorla, qui est un son tenu. Ce son-là était d'une richesse que vous n'imaginez pas. D'ailleurs, c'est une expérience que n'importe qui peut faire, c'est-à-dire se mettre vraiment, se boucher les oreilles et entendre le son de l'intérieur, où il y a des pulsations, des battements, le souhait, et que très rapidement, l'auditeur oublie cette ou ces fondamentales et se laisse simplement porter par ce jeu extrêmement subtil de légers battements, de pulsations, d'harmoniques, alors là, véritables. Hein, celles-ci, on pourrait même pas, impossible de les tempérer, parce que comme elles se font dans l'air, il n'y a pas moyen de les attraper, de leur dire « Oh, oh, là, c'est pas juste ». Et c'est un bonheur complet. En fait, j'aime tout ce qui n'est pas visible, tout ce qui n'est pas a priori audible, tout ce qui est un petit peu au-delà et du son et de ce qui se voit. Et c'est aussi l'époque où je trouvais qu'il y avait dans ces sons une grande versatilité, une grande capacité de se parler, de se mêler, d'être intéressant en les ralentissant, en les accélérant. Que c'était un matériau sonore qui était très, très, très vivant.
Eliane Radig, puisque vous parlez de votre affection pour la musique classique, il y a une de vos œuvres où ce rapport avec la musique classique est vraiment tangible. Et d'ailleurs, je crois que c'est la dernière œuvre dans laquelle vous faites usage de feedback. C'est Opus 17.
Oui.
C'est une pièce de 1970. Mais oui. Vous allez nous décrire son fonctionnement.
J'avais pour ça mis dans un placard un haut-parleur et le micro à une certaine distance. Et donc, la phrase de Chopin était d'abord enregistrée une première fois, l'enregistrement repris une deuxième fois. Et donc, ce protocole, je voulais d'abord l'expérimenter sur quelque chose que je connaissais, bien sûr. Et bien, quelque chose que je connaissais, c'était cette très belle phrase de Chopin, et qui arrive à la fin à avoir simplement ce léger flottement.
Thank you.
Liane Radig, nous sommes ici chez vous, on est entouré d'un piano, mais aussi d'œuvres d'art, et j'y pense puisque j'en vois un juste derrière nous. Est-ce qu'il faut faire un lien entre votre démarche de compositrice et celle de votre mari de l'époque, Armand, qui va se mettre à casser et brûler beaucoup d'instruments, et notamment des violons?
Alors, je me contente de citer Pierre Restany, le critique d'art bien connu de l'époque, qui a un jour écrit ou déclaré que Armand avait commencé à casser des instruments de musique quand les choses entre Armand et moi ont commencé à être un petit peu moins harmonieuses. Et je suis pas loin d'ailleurs d'en être d'accord.
Oui, puisque je crois même qu'il a brûlé et cassé une harpe, qui est votre instrument favori.
Et un piano, enfin bon, oui. Ceci étant, je lui reconnais d'avoir liquidé chez les luthiers niçois de ces instruments aptes à décourager des générations de jeunes candidats, tellement ils étaient mauvais, parce qu'il est évident qu'il prenait les plus mauvais, au moins, c'était une épuration.
Liane Radig, quand on s'intéresse à l'œuvre d'un compositeur, souvent il arrive qu'on distingue des périodes successives. Mais vous, dès le départ, vous dites que vous avez toujours voulu faire une certaine musique, c'était celle-là et pas une autre. Et c'est-à-dire vous allez avoir recours à des moyens différents, les bandes et les magnétophones, pour la musique concrète, disons, puis des synthétiseurs ARP, le synthétiseur ARP. Puis, dans les années 2000, vous allez commencer, vous en avez parlé, à travailler avec beaucoup d'interprètes, comme Audrey Davis, par exemple, beaucoup de musiciens à qui vous allez dédier vos œuvres. Est-ce que ça signifie ou non qu'il y a des périodes dans votre œuvre, Liane Radig?
Oui, très nettement. Enfin, il y a la période des feedbacks qui s'est terminée donc avec l'Opus 17 et qui a coïncidé avec la découverte des synthétiseurs. Et j'ai travaillé avec plusieurs synthétiseurs, mais aux États-Unis, enfin à Iowa University, j'avais travaillé avec le Moog, je travaillais. Bon, mais c'est le ARP a vraiment été mon instrument. Et ça, on a quand même été mariés pendant une bonne trentaine d'années. C'est quand même quelque chose. Mais il s'est trouvé également que Kasper Toplitz, avec beaucoup d'insistance...
Alors Kasper Toplitz, je précise, c'est un bassiste...
Contrebassiste,
c'est le premier interprète pour qui vous allez composer.
C'est ce que je suis en train de vous raconter. Il a insisté et comme d'habitude, je lui ai dit, je ne sais pas, mais on peut toujours essayer. Mais je me suis piqué au jeu de façon formidable, c'est-à-dire, alors que je répète, j'ai travaillé tellement de façon tellement solitaire. Moi, j'ai jamais eu d'assistant, sinon les de races félines successifs. et franchement, à part lever la tête quand ça n'allait pas ou ronronner tranquillement quand ça allait, ça n'allait pas plus loin leur assistance. Et donc, c'est lui qui a fait que. Je lui suis très reconnaissante parce que grâce à lui, j'ai pu accepter 2 ou 3 ans après, lorsque Charles Curtis, ce merveilleux violoncelliste, m'a demandé, et c'est très étrange parce que jamais je n'aurais osé demander moi à tel instrumentiste de faire quelque chose. Et ça a été, alors là, je dois dire, le début de la véritable, de la troisième partie, enfin... Il y a eu Kasper, on est responsable, parce que si je n'avais pas fait ce travail avec Kasper, mais dont la nature sonore était encore assez proche de mon univers sonore, puisque c'était la contrebasse électrique, mais retrouver l'instrumentation acoustique et avec un instrumentiste aussi merveilleux, et ça a été le premier Naljorla, dont le premier son qui a servi à faire fuir les gens de la radio.
Irène Radig, certains ont été tentés de vous rapprocher d'une tradition mystique du bouddhisme qui vous intéresse manifestement à cause de titres d'œuvres comme Les Chants de Milarepa, comme Kyalasha. Pourtant, vous avez commencé à travailler sur des sons tenus avant même de découvrir la spiritualité orientale. Quel lien est-ce que vous faites entre votre musique et la méditation que vous allez découvrir plus tard ?
Alors là, je dirais que c'est la chose la plus simple au monde. Je pense que on néglige un peu trop la dimension spirituelle qui est en chacun de nous, dans notre société européenne basée sur un cartésianisme et confirmé ensuite par des rationalisations à la. on a beaucoup développé l'instrument qui est notre intellect dans notre civilisation, mais la dimension spirituelle qui est en nous a été laissée, bien entendu, aux religions et on sait à quels excès ça peut quelquefois mener. Et il se trouve que j'ai toujours été j'ai très intéressée par la vie spirituelle. J'ai traversé, je suis née catholique et j'ai été. Je voulais être note quand j'étais gamine, c'est donc tout vous dire. Entre la musique et la religion, c'était très fort des deux côtés. Puis j'ai étudié l'hindouisme et puis j'ai repris une étude beaucoup plus sérieuse du christianisme, etc. Et ma rencontre avec le bouddhisme a été tout d'un coup comme une évidence. Et je dis souvent que en fait la spiritualité et la musique sont les deux rails sur lesquels se fait ma vie. Alors enlevez un rail et ça marchera plus.
Irène Radig, est-ce que les titres d'œuvres, parfois dans la tradition occidentale, européenne, les titres d'œuvres, ils sont sinon descriptifs, mais ils ouvrent parfois à une forme d'imaginaire. Je me demandais si c'était la fonction des titres chez vous ou si au contraire ils devaient être le plus simple possible.
Je ne répondrai pas dans le sens ni et ou, enfin, ou ce serait peut-être les deux. C'est-à-dire que je dois toujours me raconter une histoire pour faire quelque chose avec la musique. Et en fait, chaque titre est en quelque sorte une évocation de cette histoire qui sous-tend la musique qui en est faite. Par exemple, voyez, Occam Océan, pour pouvoir le ramener à quelque chose de moins vertigineux que cette immensité de l'univers, c'était bien évidemment l'océan. Qui lui aussi comporte différentes longueurs d'onde, mais au moins on peut faire la planche, on peut s'y étendre, on peut de temps en temps être intéressé par des très grandes vagues ou les petits clapotis au bord de la mer. Ça nous devient accessible. Donc le titre Océan. Occam vient du philosophe anglais du XIVe siècle, Guillaume d'Ockham, Willem of Ockham, qui est resté célèbre pour un des grands développements qu'il avait fait, qui s'appelle le rasoir d'Ockham, je ne sais pas si vous connaissez. En tout cas, c'est encore utilisé par de nombreux artistes, surtout des architectes. Mies van der Rohe, par exemple, était un grand, je pratique énormément le rasoir d'Ockham, qui, pour résumer, c'est un principe de parcimonie, c'est-à-dire dans une situation où plusieurs chemin se propose, le plus simple est toujours le meilleur. Plutôt que de complexifier, d'aller encore plus loin dans l'embrouille, au contraire, qu'est-ce qu'on peut retirer pour rendre les choses les plus simples? Alors c'est pour ça, c'est notre règle du jeu. Tout notre travail, on a tous une histoire, hein, vraiment, mais on ne la livre pas nécessairement parce qu'on n'a pas envie que l'auditeur soit là, se dire, tiens, est-ce que là vraiment on est dans une grotte, ou est-ce que là on est au bord de la mer, ou est-ce que bon, la seule chose qui est évidente, ce sont par exemple les titres des pièces résolument tibétaines que j'ai faites, c'est évident, les chants de Milarepa, les chants de Milarepa, le bardo todol, la première, le kema, ça en réfère aux six stances qui terminent le bardo todol, mais toutes les pièces ont une histoire, toutes. Faut que je m'en raconte des histoires. Et puis la musique, c'est quand même aussi le seul moyen qui permet d'exprimer des choses qui sont en nous-mêmes, mais qui ne peuvent se dire en mots, ou peut-être en poésie, mais même la poésie est plus limitée que la musique pour aller dans certaines zones de dépassement, d'évocation. C'est même pas l'expression, mais d'évocation de certaines choses. On est tous des rêveurs, non? Mais donc, chaque pièce que j'ai faite a toujours été un rêve, ou une signification. Ça a toujours une signification, mais bon, qui n'est que pour moi, je ne livre pas forcément. Quelquefois, j'en livre des petits bouts, des bribes, comme ça.
Merci, Eliane Radig, de nous avoir reçus
chez vous. Écoutez, merci à vous, ouais. C'était très sympathique.
Merci à Eliane Radig de nous avoir reçus chez elle pour évoquer son œuvre d'hier à aujourd'hui. Et pour en savoir plus, je signale le livre d'entretien avec Bernard Girard qui est paru aux éditions Edam Musicae, ainsi que le documentaire L'écoute virtuose d'Anaïs Prosaïque en DVD chez Potemkin et qui sera diffusé, c'est un film qui sera diffusé lors du très bon festival Bébé Mix à partir du 26 novembre. Guillaume Kosmicki, merci à vous aussi d'être venu dans les studios de France Culture pour mieux comprendre les notions de musique savante. Et donc je signale ces trois tomes, dont le dernier s'intitule De John Zorn à la fin du monde et après, qui est paru aux éditions Le Mot et Le Reste. On peut vous retrouver au gré de nombreuses conférences que vous donnez partout et tout ça est très bien renseigné sur votre page internet.
Alors on y va, c'est bon.
Continent Musique vous est proposé toujours par Mathieu Conquet avec la collaboration de Pascaline Bonnet, à la réalisation Olivier Guérin, à la technique ce soir Élise Leu, Nicolas Delmas et Benjamin Thuot. Toute la programmation musicale est à retrouver à la page de l'émission Continent Musique sur France Culture, ainsi que la réécoute et le podcast. Au programme de ce soir, les fictions et mauvais genres, mais tout de suite, les papous dans la tête de François Stressart. Très bonne soirée à tous.